Alors, comme d'habitude, je ne peux me satisfaire de ce regard optimiste, parce que si l'on traite de l'autre, de notre autre sujet, ce sont les biotechnologies, on est bien obligé d'admettre que la capacité de révolte, les expériences de résistance, ne sont pas aussi excitantes que celles que Ima a pu nous présenter. Pourquoi? Ceux qui ici travaillent sur la psyché peuvent évidemment le saisir facilement. Il y a une contradiction fondamentale qui est illustrée par notre propre relation individuelle et notre relation collective avec les biotechnologies, qui est d'abord la pulsion de vie. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque jour, essaye de se préserver de ce qui peut l'agresser, physiquement, contre une chute, contre une violence, contre des propos. Donc on a une économie individuelle de protection de notre vie, avec son pendant en miroir qui est la peur de la mort, que l'on peut traduire en termes de biotechnologie par un désir d'immortalité. On va chercher, la plupart d'entre nous, par tous les moyens, à faire durer la vie dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, le système de la santé publique a mis en place tout un tas d'indicateurs qui permettent de mesurer tout ça. Donc, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est que concrètement, beaucoup d'aspects qualitatifs de notre vie ont été quantifiés avec des indicateurs et des statistiques. Et exactement comme avec nos objets connectés de la santé d'il y a 2 séances, on va chercher à se comparer, plus ou moins inconsciemment, mais souvent très directement, avec des normes. Alors, l'espérance de vie à la naissance étant une des normes, d'autres indicateurs nous alertent sans arrêt sur notre propre situation. Et donc, cette recherche de l'immortalité, elle trouve aussi évidemment sa place dans l'accueil que nous faisons aux nouvelles technologies. Donc, celle-là, elle va me permettre de gagner du temps, de la qualité et de la quantité. La troisième pulsion, c'est la mise à disposition du public de techniques qui paraissaient encore il y a 10 ou 15 ans très sophistiquées et qui aujourd'hui entrent dans la vie quotidienne. On peut, et Ima nous l'a montré il y a 2 séances, acheter tout un tas d'objets connectés pour la santé. Et c'était 60%, je crois, le chiffre que tu nous as donné, de tous les objets connectés sur le marché aujourd'hui dans le monde ont une relation avec la santé. Alors, si on expose la question des biotechnologies à ces trois mécanismes, on va voir que nos capacités de résistance, on n'est même plus dans l'acceptation, comme le titre cette séance le suggère, mais on est dans le désir. Je vais prendre quelques exemples. On a vu au cours des séances précédentes les questions de la procréation médicalement assistée, cette tendance qu'on retrouve dans la littérature dystopique de la séparation de la procréation et de la sexualité. On a vu combien le soma du meilleur des mondes a ses équivalents aujourd'hui parmi les médicaments psychotropes. Comment ils ont aussi été utilisés, si je prends un exemple caricatural, par les hôpitaux psychiatriques soviétiques pour soigner, entre guillemets, ceux qui n'acceptaient pas le régime et qui donc étaient malades. On a vu les questions d'utilisation du corps de l'autre pour sa propre santé, des greffes, des cellules, de la grossesse de substitution. On a parlé des manipulations génétiques et on a été jusqu'à évoquer le transhumanisme et enfin l'intelligence artificielle. Alors je vais en prendre trois juste parce que on pourrait s'étaler pendant des heures. D'abord, où est-ce qu'on voit de la résistance ? Oui, on voit de la résistance collective, ces mouvements de refus de la maternité de substitution qui se sont développés dans le monde entier et qui visent à dénoncer les formes d'esclavage moderne que ça représente. On a affaire effectivement à des mouvements collectifs. Individuellement, une partie d'entre nous va réagir contre le médicament en préférant s'adresser à des formes de thérapeutiques alternatives. En fait, c'est surtout individuellement dans l'alimentation que, incontestablement, les formes de résistance sont les plus grandes. D'ailleurs, ça donne un nouveau marché, le marché bio, que d'ailleurs l'agroalimentaire s'est empressé évidemment de récupérer. Ça se passe exactement comme l'industrie pharmaceutique avec le générique. Quand le générique est arrivé sur le marché, dès que les trois premiers labos ont commencé à diffuser du médicament dans le monde, c'est les grands majors de l'industrie qui eux-mêmes ont créé leur labo pour faire du générique. Donc on est tout à fait dans ce type de démarche. Il y en a une pourtant qui me pose problème et que je mets sur la table, qui est la question de la vaccination. La vaccination a été une des premières des biotechnologies mises à la disposition de la population mondiale. Et si l'on raisonne en termes de santé publique, on va dire que la vaccination a amélioré la situation sanitaire de millions de personnes, et en particulier les enfants qui étaient mouraient d'épidémies dans les pays les plus défavorisés. Et pourtant, on voit apparaître depuis une quinzaine d'années des mouvements organisés de résistance à la vaccination. Le pire étant ce qui nous attend en Suisse, c'est-à-dire un référendum populaire tourné sous la forme le droit de refuser d'être vacciné. Alors, on doit se questionner aussi sur les mouvements de résistance aux biotechnologies. Bien sûr, chacun a le droit de choisir la manière dont il, s'il en a les moyens, dont il souhaite mener sa vie. Mais on est là face à presque la première des biotechnologies qui a été globalisée, et elle produit aujourd'hui une forme de résistance dont on n'est pas sûr, en tout cas évidemment les médecins qui sont ici vont probablement réagir comme moi, qu'elles vont dans le sens de l'amélioration de la santé. Et c'est une question, je crois, qu'on peut se poser. La deuxième forme de biotechnologie que je voudrais interroger, c'est bien sûr la question de la manipulation génétique. Les nazis ont rêvé de rencontrer Emmanuelle Charpentier, l'une des deux femmes qui a trouvé la méthode CRISPR-Cas9, qui, pour faire simple, c'est le ciseau du génome. J'ai oublié mes ciseaux, je voulais vous faire une démonstration. Voilà un génome. Vous prenez votre paire de ciseaux et vous découpez l'humain que vous voulez avoir. C'est pas du rêve. Ça a été découvert en 2013. C'est aujourd'hui. Ces deux femmes c'était dans tous les journaux, étaient les favorites du prix Nobel de chimie cette année. Elles l'ont pas eu parce que ça pose des questions éthiques gigantesques auxquelles personne n'était préparé, qui consiste simplement à choisir les gènes que vous voulez retrouver sous forme de leur expression phénotypique chez la personne, ou bien de supprimer celles qui ne vous plaisent pas. Alors, on avait déjà un avant-goût de ça. L'avant-goût, ça a été la mise sur le marché de très petits échographes à des prix très, très faibles, entre autres sur le marché chinois, et qui conduisent aujourd'hui à un déficit par rapport au sexe ratio naturel de 60 millions de femmes en Chine, de 30 millions en Inde. Et puis maintenant, en Afrique, en Asie du Sud-Est, la sélection du sexe est devenue banale. Or, la sélection du sexe qui favorise les petits garçons est à terme une autodestruction de l'espèce humaine. Donc, là encore, on doit interroger les exemples concrets que nous avons sur nos capacités de résistance au bébé parfait, à l'enfant parfait, à l'humain parfait, dont les parents auront décidé tous les caractères phénotypiques. Et c'est vrai que je suis moins optimiste que Assange ou Snowden. Il n'y a pas de lanceur d'alerte. Il y a une réalité qui échappe, une espèce de mouvement qui échappe pour l'instant à toute forme de régulation, au point que ces deux jeunes femmes qui ont trouvé cette technique se posent elles-mêmes le problème. Et bien sûr, dans notre grand projet Frankenstein à Genève, ça sera le centre. Bien sûr, on a invité ces deux jeunes femmes à venir. Le centre de la discussion, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand, vous rappelez la première séance, je vous ai raconté que les Chinois ont donc utilisé la méthode CRISPR-Cas9 pour 88 embryons humains et dont ils ont réussi à faire vivre pendant 3 semaines 27 en ayant modifié leur ADN. Donc on est aujourd'hui face à cette capacité de produire des humains, on va dire, le mot qui me vient est faux, mais naturels, versus les transhumains, ça va être la dernière partie de ce que je vais dire, et on n'est pas prêt, on n'a pas choisi, on ne sait pas du tout jusqu'où on a envie d'aller. Simplement, les expériences que nous avons aujourd'hui des relations entre la société et quelques nouvelles technologies mises à la disposition de tout le monde ne nous fait pas penser que la résistance, dans un premier temps, va être réelle. Au contraire, on risque d'avoir toute une population qui va se saisir de ça pour aller jusqu'au bout de son désir d'immortalité. Et enfin, le dernier exemple, on est devenu depuis dans ce séminaire des grands amis de Watson. On connaît tous, celui de IBM. Et donc, on connaît Watson, il est devenu notre compagnon de travail. La semaine dernière, donc, Lee Sedol s'est fait battre, cette idole sud-coréenne s'est fait battre par une machine, Kasparov s'était déjà fait battre. Et donc, on est dans une situation nouvelle de ces dernières années dans laquelle, effectivement, j'en parle parce que le grand projet Human Brain Project est à Genève. Vous rappelez, ça consiste à produire un cerveau, un ordinateur qui ressemblerait le plus de près possible à un cerveau. Et que donc, pour l'instant, la fascination du public vis-à-vis des avancées qu'on peut qualifier d'extraordinaire de la science fait que on a l'impression que le public n'est pas prêt à tout ça et que donc il n'y a aucune pédagogie qui est faite sur l'utilisation de ces technologies et que je pense très objectivement qu'il y a de quoi monter des séminaires comme celui-là, inviter des invités comme celui-là et d'autres que nous avons vus ici parce que c'est une vraie question qui nous concerne tous. Alors, juste pour terminer, Steve Wozniak, le fondateur d'Apple avec Steve Jobs. Les ordinateurs vont prendre le relais de l'homme, cela fait aucun doute. J'adhère à l'idée que l'avenir est effrayant et nuisible pour les gens. Bill Gates, l'intelligence artificielle va devenir une préoccupation. Je ne comprends pas ceux qui ne s'inquiètent pas. Ou Stephen Hawking, le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Voilà. Merci.